Grâce en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. En mars 2011, les pluies diluviennes qui ont affecté le sud-est du Brésil ont déclenché nombre de glissements de terrain. Certes, la région est habituée à ces orages tropicaux, mais la catastrophe a occasionné d'immenses dégâts et de nombreuses pertes humaines. C'est aussi dans cette région que la loutre à longue queue s'est vue déserter les rivières. Une étude menée près de Petrópolis a révélé que la loutre avait subi de grandes pertes de population. En fait, plus de 120 sites répertoriés ont été anéantis et plus de 2 ans après l'événement, l'animal n'avait pas encore recolonisé les lieux. La forêt tropicale humide du Brésil possède la plus grande biodiversité spécifique au monde. Le bassin amazonien présente une diversité inégalée qui s'étend sur 7 millions de kilomètres carrés. La forêt primaire abrite plus de 2,5 millions d'espèces animales et plus de 438 000 espèces botaniques d'intérêt ont été répertoriées. Pourtant, la déforestation continue et la conversion des zones boisées en agriculture, le plus souvent de soja, dépeuple cette région. Plus du cinquième de la forêt amazonienne a déjà été détruit et celle qui reste est menacée. En l'espace de seulement 10 ans, la surface de forêt perdue atteint une superficie supérieure à la France, 587 000 km². La majeure partie de cette forêt perdue servant à produire de la nourriture pour le bétail. Alors les plus grands prédateurs ont toujours été persécutés, et l'élevage bovin ne semble pas faire bon ménage avec les jaguars ou avec les pumas. L'élimination des grands prédateurs suit une logique de compétition avec les activités humaines. Mais l'éradication des prédateurs qui sont situés à un haut niveau des réseaux trophiques est associée à une possible augmentation des prédateurs de taille moyenne. C'est du moins l'hypothèse dite du relâchement des mésoprédateurs, mésoprédateur release, qui prédit que la chute drastique des grands prédateurs comme le jaguar entraîne un accroissement des prédateurs de taille moyenne. C'est un effet déstabilisant sur la faune et ça conduirait alors en cascade à une décimation des proies et plus particulièrement des populations d'oiseaux. Les mésoprédateurs finiraient par détruire la biodiversité. Il y a cependant un débat très important sur cet effet mésoprédateur, car le concept de relâchement des mésoprédateurs a reçu des confirmations dans la littérature, mais principalement dans des zones fragiles, des montagnes ou des îles banalisées. Les oiseaux subiraient d'importants impacts sur leur population. Du coup, nombre d'États pratiquent des régulations de ces mésoprédateurs. Néanmoins, d'autres études se montrent beaucoup plus circonspectes, ne révélant que des conséquences très limitées, voire même ces mésoprédateurs pourraient générer un meilleur accueil pour l'écologie de toutes les espèces. Des recherches menées sur l'Oslo démontrent que l'effet mésoprédateur est au contraire très favorable à l'avifaune. En fait, on ne sait pas grand-chose de l'effet des grandes espèces sur les petites. Or, la forêt du sud-est du Brésil regorge de prédateurs moyens, coatis, ratons crabiers et loutres. Ici, l'effet mésoprédateur est estimé. La destruction des grands prédateurs n'a pourtant guère favorisé les proies, et il semble bien que les écosystèmes réels s'avèrent beaucoup plus complexes que ceux qui sont supposés par cette théorie un petit peu naïve. Alors faut-il s'intéresser aux loutres, aux coatis, aux ratons crabiers? Que doit-on penser des mésoprédateurs? En continuant la visite de la forêt du sud-est du Brésil, nous nous arrêtons dans le centre de sauvegarde de Florianópolis pour débattre du rôle des espèces moyennes. Ici sont abrités le raton crabier, la martre à tête grise, le coatis roux, car il s'agit aussi de sauver des espèces moyennes, certes, mais rares et menacées, comme la loutre à longue queue. Alors nous allons parler forcément du projet Projeta Lontra. Avec le retour de notre éco-volontaire, nous allons explorer l'île de Santa Catarina, en route pour le sud du Brésil.
Danças e cachimbos, mulheres e crianças, caraíbas e tapuias, cantos de esperanças, terra de índio, terra de índio, sangue de guerreiro, primeiros caçadores, Guarani Xavante, índio brasileiro, terra de índio, terra de índio. Faz bem mais de 10 mil anos na América do Sul, antes dos conquistadores, antes do alto do Xingu, verdadeiro brasileiro, Bataxó xerau praô, em harmonia. Ajudem Pindorama, terra das palmeiras, seu povo reclama, terra de índio, terra de índio. O Brasil precisa amar seus nativos, seus irmãos de alma, e mantê-los vivos, terra de índio. Fazem mais de 10 mil anos na América do Sul, nossas tribos e caciques, penas de arara azul. Viva o chefe Tabajara, viva Mário e Araribóia, viva o último.
C'était Terra de Indio de Deep Forest.
Le voyage au Brésil. L'écologie des espèces se combine dans des réseaux trophiques complexes où chacun interréagit avec les autres. Mais dès que les grands carnivores se font rares, les prédateurs de taille moyenne augmenteraient leur répartition, leur distribution, bouleversant les écosystèmes et affaiblissant les populations, notamment les populations d'oiseaux. Alors, a-t-on besoin des prédateurs de moyenne taille ? Au Brésil, des publications scientifiques contradictoires nous interprètent aujourd'hui sur ces fameux effets mésoprédateurs. L'une de ces publications parle du coati, l'autre de l'oslo, la dernière sur la loutre tropicale. Du coup, je reçois Marilou Lelias, de retour du Brésil, qui va nous parler du Projeto Lontra et du rôle des carnivores de taille moyenne. Le Brésil est un bon exemple pour la conservation des animaux de moyenne taille, non ?
Oui, bonjour Thierry. Alors, avec 201 millions d'habitants, c'est le pays le plus peuplé d'Amérique latine et le cinquième du monde par sa superficie avec, tenez-vous bien...
Je me tiens.
Oui, 8 514 876 km², soit
quand même
plus de 13 fois la France. Il possède des frontières avec 10 pays. Nous allons partir aujourd'hui dans le sud-est du Brésil, dans l'état de Santa Catarina, sur l'île qui porte le même nom, dans la ville de Florianópolis, à Projeto Lontra.
Alors, Projeto Lontra, Marilous, je suppose que ça signifie projet loutre en portugais.
Exactement. Projeto Lontra, ou projet loutre, a eu 30 ans en 2016. C'est un centre d'études et de recherche, mais également un refuge et un centre de soins.
Ouais.
Son objectif principal, c'est d'étudier l'écologie des loutres au Brésil, et bien sûr, la recherche de solutions pour la conservation de l'espèce. Il a permis au centre de publier environ 70 articles sur la biologie et la conservation des loutres à longue queue. Le directeur du centre, Junior, est responsable du groupe loutre de l'UICN. Alors l'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le centre, c'est un sanctuaire reconnu pour les loutres et d'autres animaux. Il accueille des animaux orphelins qui souvent ne pourront plus être relâchés.
Dans la nature, oui, parce qu'ils ont subi un fort contraste de population. Ainsi, le centre de Florianópolis, ça va permettre donc de mener des études comportementales, sur les loutres notamment, et il y a donc les éco-volontaires qui s'occupent des animaux en captivité et qui font les observations comportementales.
En effet, le centre reçoit des éco-volontaires qui se consacrent à l'observation et aux soins des animaux en captivité. Oui, il y a le nourrissage, le nettoyage, des enrichissements de leur environnement et bien entendu des études comportementales. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard. Le travail au centre implique également des actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement auprès des habitants locaux, autour de la zone d'études, ou moins locaux d'ailleurs, puisqu'il y a des visiteurs.
Oui, le centre est ouvert en fait aux visiteurs.
Exactement, on peut aller le visiter le matin, le soir, à la journée ou... Ou même, il y a des gens comme nous qui viennent, voilà. La loutre, c'est un animal très sensible, dont la survie est directement liée à la préservation de cet environnement. Dans le centre, il y a donc Junior, qui est le directeur et qui est à côté professeur à l'université. Il y a Marcello, qui nous encadrait tous les jours. Donc lui, il est éthologue et il s'occupe un peu de tout dans le centre. Il fait les visites avec le public, il passe aussi bien la tondeuse qu'il répare les douches et il est prof de kayak pour nos sorties.
C'est un homme complet.
Exactement. Ensuite, je ne vais pas citer les noms, mais il y a une étudiante vétérinaire qui est là 3 jours par semaine. Et nous étions 4 stagiaires ou éco-volontaires. Et puis parfois, il y avait des gens de passage, donc notamment de Adventure Camp. C'est une centre de centre aéré, en fait. Et ils venaient avec eux les enfants pour leur montrer le Projeto Lontra, pour les sensibiliser justement.
Les stagiaires et éco-volontaires viennent en fait d'un peu partout dans le monde.
Oui, c'est ça. Il y avait 3 Français et une Américaine, moi, quand j'étais sur place. Après, peu importe, on demande à venir et puis...
Ok, et tout ça, ça se situe où alors ?
Alors, ça se situe où ? Projeto Lontra, c'est situé à Florianópolis. On dit Flori, pas là-bas.
Ah oui.
Et pour être plus précis, c'est à côté du village d'Armaçao, sur l'île de Santa Catarina, dans le sud du Brésil. Cette île, elle est divisée en 3 parties, en fait. Il y a la partie nord, qui est la partie touristique, avec les boîtes de nuit, les bars, tout ce qu'il y a pour sortir. La partie centrale, donc c'est le quartier plutôt résidentiel avec les habitants de l'île. Et la partie du sud, donc nous étions ici, hein, c'est la réserve naturelle. Donc on habitait dedans. Donc au projet Toulon, donc les loutres, elles vivent dans des biotopes très variés, depuis les rivières, les ruisseaux et les lacs d'eau douce jusqu'aux estuaires, les lagunes, les mangroves et les îles côtières. Le lac de Péry est le site principal du projet. Il est localisé dans un parc naturel à 30 km de Florianopolis et le lac Lagoa do Péry, qui fait 5 km², hein, comme les autres zones d'études, est très important pour la reproduction des loutres qui y vivent toute l'année et se reproduisent principalement au printemps. Leur domaine vital est assez vaste et il peut être difficile de repérer ces animaux dans la nature car ils sont très timides et plus actifs aux premières heures et tard dans la journée. On dit qu'ils sont crépusculaires. Mais comme au centre, c'est pour ça que les horaires d'ouverture au public se font donc soit le matin, soit en fin d'après-midi. Sinon, là où on allait, il y avait aussi un petit barrage où on trouvait des épreintes à chaque passage.
Alors les épreintes, il faut rappeler, c'est la marque que fait la loutre quand elle passe, hein, en déposant ses fesses.
Oh oui, voilà, la petite marque des fesses. Le centre est tout proche de la côte aussi, donc il y a la plage d'Armasao.
Ah oui.
Où on trouve régulièrement des fesses sur des rochers. Et d'ailleurs, il y a les égouts en plein milieu urbain aussi, devant le supermarché où on faisait nos courses. Ouais.
Où mais ça ne cherchait pas en France, hein, vous ne trouvez pas des épreintes de loutre près des supermarchés, où ça m'étonnerait.
Oui. Bah là, on y trouvait nous plein d'épreintes, mais ici, c'était un lieu de passage pour elles. Ouais. Et les eaux de Lagoa do Péry sont riches en crustacés et en poissons et sont entourées de montagnes couvertes par la forêt atlantique.
Alors la forêt atlantique, c'est une forêt particulière quand même du sud-est du Brésil, mmh, qui a évidemment une importance capitale pour la biodiversité. Et apparemment, tes loutres à toi semblaient bien aimer.
Oui, elles semblaient aimer cet environnement et beaucoup de jeunes loutres naissent et grandissent dans cette région.
Alors, la loutre néotropicale, donc, c'est un carnivore de taille moyenne et ce sont plutôt des animaux qui vivent en petits groupes.
Oui, les femelles et les jeunes vivent habituellement dans un groupe qui est souvent observé à distance par un mâle au cours de l'adolescence.
Alors oui, on en a déjà un peu reparlé, mais est-ce que tu peux nous faire un rappel sur la loutre à longue queue ?
Alors, sans refaire toute l'émission sur la loutre, bien sûr, puisqu'elle est téléchargeable.
Elle est téléchargeable, oui, tout à fait, sur le site Trou Noir.
Merci Thierry. La loutre néotropicale Lontra longicaudis, c'est un mammifère qui appartient à la famille des mustélidés. C'est un animal semi-aquatique, agile, crépusculaire, curieux et timide, occupant le sommet de la chaîne alimentaire. On dit donc que c'est un top prédateur. On peut le trouver dans des rivières, des ruisseaux et des lacs d'eau douce, des estuaires, des lagunes, des mangroves et des îles côtières. La loutre néotropicale est considérée comme étant presque menacée par la liste rouge de l'UICN et inscrite sur l'annexe 1 de la Convention de Washington. C'est donc une espèce dont on souhaite lui conférer un statut de protection le plus élevé. Au Brésil, la loutre est considérée en voie de disparition dans la Mata Atlântica, la forêt atlantique, par la liste rouge nationale des espèces menacées.
Alors dans les rivières, la loutre est plutôt une clé des réseaux trophiques. Pourtant, elle reste un prédateur de moyenne taille, qui est donc qualifié de mésoprédateur, parce que d'autres prédateurs peuvent avoir un impact sur elle. Par exemple, le jaguar pourrait l'attraper, la consommer, et donc ça va créer des effets de dispersion, qui théoriquement devraient limiter ces fameux mésoprédateurs.
Oui, l'adulte peut peser 20 kg, un corps allongé, souple et musclé, une tête ronde, avec de petites oreilles, un cou et des pieds courts, avec des membranes entre les orteils et évidemment une longue queue. Ces caractéristiques permettent à cet animal une grande agilité, une toute petite perte de chaleur et la capacité de rester longtemps sous l'eau. Mais l'espèce a été gravement menacée en raison de la destruction de l'habitat aquatique, de la pêche intensive, de la chasse, ainsi que la présence d'animaux domestiques tels que les chiens.
Ah oui, parce que là-bas, les chiens sont aussi une menace pour la loutre.
Oui, les loutres se font attaquer par des chiens. Les loutres qui sont arrivées à Projeto Lontra, en fait, étaient pour la plupart des loutres à mettre en soins vétérinaires intensifs, car elles avaient été attaquées par des chiens et n'auraient pas été capables de s'en sortir. Mmh. En fait, le centre réalise la prise en charge de 4 espèces, dont la loutre à longue queue, mais aussi le raton crabier, donc Procyon cancrivorus, la martre à tête grise, Hera barbara, le coati commun ou coati roux, nazoa nazoa. Et dans la zone où nous habitions, dans la réserve, nous pouvions voir de nombreuses autres espèces animales. Hein. Il y avait le lac au caïman.
Ah oui.
Bon, on y a été deux fois, j'en ai jamais vu, mais.
Mais il y avait des caïmans.
Voilà, il y avait des caïmans, des agoutis d'Azara, des opossums à quatre yeux. Donc on s'imagine souvent l'opossum d'Australie, mais ce n'est pas la même espèce. Hein.
Oui, il y a plein d'opossums en fait différents en Amérique du Sud. Oui,
oui exactement. Et bon, bah, sinon, il y avait un animal qui grattait le toit de notre chambre la nuit, mais on n'a jamais trop su ce que c'était.
Heureusement déjà. Un jaguar, peut-être.
Peut-être, oui. De plus, il y avait des centaines en fait, d'oiseaux locaux. Il y avait des toucans. On a pu voir le jet d'azur.
Qui est un magnifique animal, hein, très bleu.
C'est ça. L'ortalie décaillée. Et aussi, il y avait un serpent corail qui se baladait dans le centre, parfois. Alors, c'est pour ça que Marcello devait passer la tondeuse très, très rare. Et il fallait faire très attention à ce que l'herbe ne pousse pas dans les allées. Donc, c'est vrai que quand moi, je passe la tondeuse, j'attends au moins que... qu'on ne voit plus mes pieds, mais là-bas,
Là-bas, c'est vraiment très bien tondu.
Mais il y a presque plus de pelouse.
D'accord, c'est vrai que le serpent corail, c'est pas n'importe quoi non plus. Sinon, vous aviez aussi des activités extérieures de suivi de la loutre dans la région.
Oui, alors à l'extérieur, nous faisions des prospections loutre. On faisait beaucoup en fait de randonnées sur des demi-journées ou des journées complètes. Nous sommes allés à Praia do Saquinho ou à la Goiânia do Leste, donc là je cite les lieux, mais ça parle peut-être pas
non,
à tout le monde.
Pas forcément, mais...
Donc nous avons fait en fait du kayak dans les lagunes.
C'est à quelle distance à peu près du centre à chaque fois?
Alors on partait avec le pick-up hein, avant de commencer les randonnées. On faisait bien d'abord 25 km, je pense.
25 km, 30 km, oui.
Ouais. Avant de partir, oui. Et ça grimpe dur, hein. On dit que le Brésil, c'est pas forcément montagneux, mais... Donc après, on faisait du relevé de pièges photo au passage. Il s'agissait là de déposer des pièges caméra pendant environ 2 semaines. Et une fois les caméras récupérées, il fallait analyser les comportements filmés. Donc avec quel type d'animaux les loutres cohabitaient-elles? Sont-elles plusieurs en même temps dans les catiches? Que font-elles? À quelle heure et pendant combien de temps?
Plein de questions naturalistes intéressantes.
C'est ça. Et il est très difficile d'estimer la population d'une espèce comme la loutre. Afin de connaître la présence des loutres dans les différents secteurs connus et voir l'intensité d'utilisation des catiches, il faut visiter régulièrement les différents sites où elles se rendent afin de trouver des fesses de loutres. Il faut alors noter si on en trouve ou non, combien, et si oui, si elles sont sèches ou fraîches. Tout cela ne donne pas un nombre exact de la population de loutres vivant sur l'île de Santa Catarina. À ce jour, la population de loutres à longue queue, au niveau de la Lagoa do Peri, où est basé le centre, et le principal site d'étude, est estimée entre 11 et 15 individus. Vous écoutiez The Eagle File Alone de Arch Enemy.
Bonjour, nous revoilà sur Radio Libertaire où je reçois Marie-Lou Lélias pour parler de l'effet mésoprédateur au Brésil. Donc pour le moment, nous avons évoqué ton séjour au centre de Florianópolis. Et donc vous faisiez quoi comme activité en tant que stagiaire? C'était quoi, on dit dire, une journée type?
Ah, mais alors, il n'y avait pas de journée type. Toutes les activités étaient différentes en fonction des jours, à part le nourrissage, bien sûr, parce que il fallait nourrir les animaux. Déjà, les animaux, je vais dire, donc nous avions des enclos avec 6 loutres. Il y avait donc 2 couples, une femelle, un juvénile, 2 martres à tête grise, où c'était un couple, un raton crabier, 2 ouistitis à pinceau noir, une mère et sa fille, et une conure dorée. Au niveau des horaires, nous commencions à 8h30 pour nourrir tout le monde. Alors là, en fait, nous commencions à découper le poisson. Alors, il fallait bien sûr avoir pensé à décongeler le poisson la veille. Ah, oui. Ça nous est arrivé une fois de ne pas y avoir pensé, et là,
là faut
c'est
le découper
compliqué
à hache.
Et oui, et ben non, il faut le découper sous l'eau chaude, c'est compliqué. Alors vient le moment de peser et de mettre dans les barquettes, parce qu'évidemment, en fonction du poids de l'animal, on ne le nourrit pas avec...
Il faut adapter.
Eh bien, on adapte, exactement. Et une fois que tout est prêt, on va faire passer les animaux dans des petits enclos, en fait, par des trappes, dans des enclos, donc on jette le poisson. On les fait passer dans ces trappes et on va commencer le nettoyage de leur enclos principal. Donc on rentre avec les petites pelles pour ramasser leurs déjections. Ensuite, on va nettoyer les skimmers, leur bassin. On passe le tuyau d'arrosage, bien sûr. Et on va dispatcher la nourriture dans tous ces enclos, en fait. Voilà. Ensuite, le soir, on faisait le nourrissage par le toit car il n'y avait pas besoin de nettoyer les enclos. Oui. Évidemment, tous les déchets sont triés parce que nous ne jetons rien. Donc, les déjections servent de compost pour les bananiers. Et pareil pour les coques de fruits et ce genre de choses. Sinon, nous avions des activités tout à l'heure, on a parlé des activités à l'extérieur. Maintenant, je vais parler des activités que nous avons au centre. On a fait des enrichissements. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'était les poissons dans des feuilles de bananier qu'on a donné aux loutres. Donc déjà, tailler des feuilles de bananier, c'était compliqué. Après, faire un petit paquet comme ça et les accrocher. Et après, il fallait que les loutres attrapent ces petits paquets qu'on avait accrochés dans des arbres. C'était assez drôle. On leur a fait aussi des glaçons géants. Donc pareil, on a coupé des petits bouts de poissons qu'on a mis dans des bouteilles d'eau, on les a mis au congélateur, et glaçons géants. Pour les martres, nous avons fait des boules de barba de velho, donc également pour les ouistiti. Là, on aura fait des boules de barba de velho aux épices. Alors, qu'est-ce que c'est la barba de velho, Dilandia usneudis, ou mousse espagnole? Mais attention, ce n'est pas une mousse. En fait, c'est de la famille des ananas ou broméliacées. En fait, on l'appelle comme ça parce qu'on on l'arrache des arbres et puis si on se la met au niveau de la barbe...
Ça fait comme une barbe de chocolat.
Comme une barbe de vieux. Hein. C'est pour ça que ça veut dire barbe de vieux en portugais. D'accord. On a fait des boules à croquettes pour les martres et un jour, on a carrément mis un bananier au complet dans l'enclos des martres.
Alors, ce sont les martres à tête grise, les terras. Hein, ce sont...
Voilà, oui, les martres à tête grise. Ouais. En enrichissement, on a fait aussi, on a ramené du sable dans les enclos des loutres. Et puis, nous avions également le projet Macrofit. Donc, ça, c'est pour filtrer l'eau des enclos des loutres de façon naturelle. Il y avait en fait 3 bassins. Donc, le bassin de filtration, ce sont des bassins de filtration écologiques. Hein. Donc, les 3 sont à la suite avec une hauteur différente pour faire pression pour envoyer l'eau. Et il y a un système de lagunage naturel et d'épuration avec des plantes aquatiques flottantes.
Les macrophytes.
Voilà. Et dont le dernier, où il y a plein de poissons. Et comme les plantes flottantes se multipliaient vite et qu'il fallait de la lumière pour les poissons, il fallait donc réguler les plantes pour garder les poissons en vie. Alors on y allait en équipe avec des épuisettes et on enlevait ces plantes. Une sacrée...
aventure.
Une sacrée aventure. Sinon, bah, nous faisions évidemment le désherbage sur le pourtour des enclos pour éviter eh bien, les serpents, donc surtout pour le public, hein, plus que pour les loutres. Nous avons eu bah, des conférences sur la loutre à longue queue par Junior. Une conférence sur la reproduction des loutres en captivité. Et voilà, en fait, bon, on a fait, j'imagine, ouais, plein d'autres activités après là.
Et tu as aussi travaillé à l'université, en fait, en laboratoire.
Oui, exactement. Nous avons fait de la recherche parasitaire dans des épreintes de loutre à l'université de Santa Catarina, au département de zootechnique. Nous avons ramené dans une glacière des épreintes fraîches que nous avons collectées quand on faisait des sorties en kayak ou en randonnée. Il y a deux méthodes d'analyse des fécesses, mais dans les deux cas, ce sont essentiellement les œufs de parasites qui sont recherchés. On prépare l'échantillon en filtrant l'épreinte avec une solution saline dans une passoire. On touille jusqu'à récupérer un petit jus. Puis ce petit jus, on le dilue avec de la solution saline jusqu'en haut de l'éprouvette et on pose la lame de microscope, puis on regarde au microscope. La première méthode est quasi immédiate, hein, il faut 15 minutes, et permet de détecter les plus gros parasites. Et la deuxième nécessite 24 heures d'attente après traitement et permet d'affiner la recherche pour trouver les plus petits parasites.
Oui, les autres parasites, etc. Alors tout à l'heure, tu nous as dit qu'il n'y avait pas que des loutres au centre, qu'il y a aussi des ouistiti à pinceau noir, une conure dorée avec la queue coupée. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits détails ?
Les ouistiti à pinceau noir, Calitrix penicillata, sont des primates qui vivent au Brésil dans de nombreux états. Son aire de répartition est assez vaste. Ils sont vraiment très petits, hein, environ 20 cm avec une queue de 30 cm et ne pèsent qu'entre 180 et 220 grammes. La femelle est plus petite. Ils ont une robe de couleur noire tachetée de gris avec une face plus blanche. Et surtout, des touffes de poils qui sortent des oreilles.
D'où le nom de pinceau noir.
Exactement, il faut vraiment regarder une photo sur internet pour ceux qui ne connaissent pas. Dans son alimentation, il est frugivore, insectivore et gomivore. Nous les nourrissions au centre, hein, ce que nous avions, avec des bananes coupées en rondelles ben, comme des tranches de saucisson un peu, hein, et des quartiers d'orange, ainsi que des croquettes soufflées pour perroquets. Puis c'était bah, toute une histoire pour les nourrir car ils étaient vraiment très très agressifs. Alors, il y avait toute une procédure avant d'ouvrir la cage pour ouais, récupérer les assiettes. Hein. On devait mettre en fait un tuyau d'arrosage entre les deux cages.
Voilà, un canon à eau pour se protéger. Et la fameuse conure dorée qui t'aimait tant aussi.
Oui, elle m'aimait tant parce qu'elle m'a croqué l'oreille. Alors, la conure dorée, Garuba Garuba, c'est une espèce d'oiseau de la famille des Psittacidae. Elle est endémique, de l'Amazonie brésilienne.
Les Psittacidae, c'est les perroquets. Hein.
Oui. Elle mesure plus de 30 cm, a une robe jaune très vif avec en couleur secondaire du vert sur les ailes. Elle a une alimentation frugivore et consomme aussi des noix. Et important, cette espèce est protégée depuis 1975 par la Convention de Washington, car elle appartient aux groupes les plus menacés de disparition. Et notre conure dorée, à Projet Olontra, en fait, elle a été récupérée en soins car c'est un couple qui l'avait achetée et qui lui avait coupé la queue et les ailes.
Oui.
Donc, toute la partie verte du plumage sur les ailes. Hein, donc, c'est pareil, regardez une photo pour savoir en fait quelle partie. Et c'est pour qu'elles ne s'envolent pas. Et un jour, ils ne voulaient plus de leur perroquet. Donc, c'est Projet Olontra, voilà, qui l'a récupérée. Et bah, sauf que cette conure, sans queue et sans aile, elle est incapable de voler. Et là, bah, en fait, elle se déplace en crabe, et avec son reste d'aile écarté, elle est très instable, essayant de s'accrocher partout avec son bec. Il fallait donc qu'on la transporte de sa cage de nuit à sa cage de jour sur notre épaule, et en ne marchant pas trop vite pour qu'elle se tienne en équilibre. Et puis un jour, bah, elle s'est retenue avec son bec à mon oreille, et ouais, ça, c'était mon souvenir. Voilà, donc pour le nourrissage, on lui mettait des fruits, des graines et ses croquettes soufflées.
Alors, tu as aussi vu des toucans et des autres oiseaux pendant ton stage.
Oui, à Parque das Aves. Marcello nous avait dit qu'il y avait le Progetto Tucano, pas très loin. Il me semble que ça ressemble au centre, mais ils sont spécialisés dans les toucans. Moi, pendant mon passage au parc national d'Iguaçu, j'en ai profité pour aller voir Parque das Aves. Ce parc, c'est un centre internationalement reconnu pour la récupération et la conservation des oiseaux, situé dans la forêt atlantique, dans le parc national d'Iguaçu. Là-bas, il y a 1320 oiseaux, couvrant environ 143 espèces différentes, hein, sur plus de 16 hectares de Mata Atlantica. Les oiseaux viennent des quatre coins du Brésil. Et l'histoire du parc est assez étonnante. C'est une famille de Namibie au départ, qui possédait des oiseaux, puisqu'ils étaient vétérinaires et aimaient les oiseaux. Et ils ont emménagé au Brésil, à Iguaçu, sur les conseils d'un ami. Et, potin. Au départ, c'était l'ouverture d'un parc à crocodiles qui était prévu.
Ça a changé.
Mais la famille préférait les oiseaux. Et elle a réussi à obtenir tous les permis nécessaires pour installer le parc sur une partie de forêt.
Mais alors, tous ces animaux, ils viennent d'où à la base ?
Eh bien, ils proviennent de divers endroits. Les premiers oiseaux ont été des dons et des prêts de zoos brésiliens. Il y a également des animaux confisqués qui ont été envoyés. En très grande majorité, ce sont des toucans et des perroquets, mais il y a aussi des colibris dans la serre à papillons, des chouettes, des autruches, des flamants roses, et je pense que j'en oublie. Enfin, quand on rentre dans la volière géante des perroquets, c'est impressionnant le bruit que ça fait. On pourrait peut-être les écouter.
Alors oui, je mets un petit extrait.
Enfin, ce parc a ouvert en 1994 et pour l'instant, c'est le plus grand parc ornithologique d'Amérique latine.
Eh bien donc, vie aux amateurs d'ornithologie.
Oui, et en plus, voir les projets du parc, c'est vraiment intéressant. En tant qu'institution de recherche et de conservation, il développe notamment le projet Araras do Iguaçu. Le grand ara rouge peut être trouvé dans plusieurs régions du Brésil, mais malheureusement, il est de plus en plus rare dans le Paraná. Et dans la région de Foz do Iguaçu, il est éteint. Et comme Parque das Aves est un pionnier dans l'étude et de la réintroduction des psittacidés au Brésil, il vise à développer, tester et affiner les méthodes de réhabilitation et de réintroduction de l'ara d'Iguaçu. Leur deuxième projet principal est le projet Toucan. Celui-ci consiste à regrouper mâles et femelles pour maximiser les chances de reproduction. Et il y avait des recherches sur la nutrition des toucans en captivité qui étaient difficiles aussi. Ils avaient des excès de fer.
Alors, on va revenir sur le centre de Florianópolis. Le centre accueille aussi des petits carnivores, donc des fameux mésoprédateurs, comme la martre à tête grise ou encore le raton crabier.
La martre à tête grise, ou Terra aera barbara, est un mustélidé comme la loutre. Elle vit en Amérique centrale et du Sud, dans les milieux tropicaux. Concernant sa morphologie, elle mesure entre 40 et 50 cm pour un adulte et a une queue de 60 à 70 cm. Son poids est d'environ 5 kg.
Ce qui est déjà beaucoup, hein, pour une martre, c'est pas mal. Hein.
Oui. Pour la couleur de son pelage, c'est variable en fonction de la sous-espèce. On retrouve du pelage clair jusqu'au brun très foncé. Et il y a 9 sous-espèces. Concernant son régime alimentaire, elle est omnivore. Au centre, nous les nourrissions avec des fruits et légumes. Donc ça pouvait être des kakis, des oranges, des bananes, de la patate douce, de la pastèque et des pommes. Et des croquettes à chien pour la viande. Parfois, elles avaient des rats qui venaient des labos de l'université de Santa Catarina.
Alors, il y avait aussi donc le raton crabier.
Le raton crabier, Procyon cancrivorus, c'est un mammifère omnivore de la famille des Procyonidés.
Donc, la famille des Procyonidés, c'est les ratons laveurs.
Hein. Mm-hmm. On le retrouve en Amérique du Sud. Donc, il ressemble à un raton laveur peu touffu. Un adulte mesure en moyenne 80 cm que comprise. Donc 50 cm tête et corps et 30 cm de queue. Et peut peser entre 2 et 12 kg. Les mâles sont habituellement plus gros que les femelles. Ils ont une coloration grisâtre, presque noire sur le dessus, avec le bandeau noir sur les yeux. Et une queue annelée de 4 ou 5 anneaux. Le régime alimentaire du raton crabier comprend des écrevisses, des crabes, d'autres arthropodes. des grenouilles, du poisson, des noix, des graines, des glands et des baies. Il a des mains avec un sens du toucher très développé et avec extrêmement de dextérité. C'est pourquoi il ramasse les aliments avec ses mains. Pour info, on a souvent observé les ratons crabiers tremper leur nourriture dans l'eau avant de manger. Autrement, ce raton se trouve dans les zones broussailleuses ou boisées, généralement près de l'eau. Son activité est principalement nocturne, il escalade et nage bien. Les ratons crabiers utilisent des cavités dans les arbres, des crevasses rocheuses, de vieilles souches ou des tanières abandonnées par d'autres animaux pour abri. Je l'ai déjà dit, il me semble, mais notre raton crabier, il était aveugle, donc on ne devait rien lui mettre en hauteur au niveau de la nourriture, et en plus, il ne mangeait pas tout le temps le crabe qu'on lui donnait. Au début, on pensait qu'il ne sentait pas le crabe, c'est juste qu'il faisait son difficile, en fait. Et donc lui, il ne grimpait plus, hein, sauf pour aller dormir dans son tronc d'arbre, dans son gîte. Là, il y arrivait parce que ça changeait pas d'emplacement. De la batucada brésilienne.
Nous sommes sur Radio Libertaire pour parler du rôle des prédateurs de taille moyenne et nous avons fait connaissance avec les carnivores du Brésil, le raton crabier, la martre à tête grise, mais il y en a aussi un des plus célèbres, le coati. Alors, est-ce que Marilou, tu peux nous parler du coati ?
Le coati, ce sont des petits mammifères de la famille des Procyonidae, comme les ratons laveurs. Mais l'appellation coati désigne en fait plusieurs taxons distincts. On retrouve plusieurs espèces qui vivent toutes en Amérique du Sud et centrale. Et ils sont généralement répartis en deux genres, Nasua et Nasuela. Les espèces sont Nasua narica, Nasua nasua, Nasuela olivacea. Et en 2009, une proposition de classification phylogénétique fait apparaître l'espèce Nasuella meridensis. Je vais surtout me baser sur le coatirou, Nasua nasua, puisque c'est celui-là que j'ai observé pendant mon voyage au Brésil, notamment au parc national d'Iguaçu, dont il est l'emblème. C'est un animal qui ressemble à un chat touffu, avec un museau pointu et une queue annelée. C'est pour ça qu'on l'appelle également coati à queue annelée. Il peut mesurer entre 80 cm et 1,40 m, queue comprise, et peser 4 à 5 kg.
Ah, il se promène toujours avec sa queue un peu en hauteur, hein, c'est tout à fait particulier. Oui. Mais ce sont donc tous des carnivores moyens, mais alors qui mangent un petit peu de tout.
Oui, le coati est omnivore, il se nourrit d'insectes, de fruits, de souris, mais aussi de sandwichs. Donc il vaut mieux ne pas manger dans le parc national, et surtout lorsqu'ils vivent en groupe. Hein, donc un sandwich de sortie, c'est l'assurance d'avoir 8 coatis qui vous encerclent. En plus, ce sont de très bons grimpeurs, donc ils n'hésiteront pas à escalader les barrières pour voler de la nourriture. Mais ne nous quittons pas sans le potin coati. Au Pérou, une entreprise utilise le coati à queue annelée pour la confection de ses cafés.
Ah bon ? Comment il fait ça ?
Aha ! L'animal va manger les meilleurs grains de café, alors des cerises de café même, dans les hauts plateaux, et l'entreprise les récupère dans les fesses de l'animal, qui lui ramène et a même joué un rôle de prédigestion. Ah. Ce qui donnerait un petit goût particulier à ce délicieux café. Bien sûr, on vous vend ce café 1 400 $ le kilo.
Et on peut en savoir un petit peu plus sur le processus.
Oui, et pas d'inquiétude, le café est très bien lavé. En fait, ce sont les cerises de café rouges et pulpeuses qui, elles contiennent qui contiennent chacune de grains, attirent divers animaux, dont les coatis. Le café traverse alors leur système digestif. Et du fait qu'ils ne sont pas capables de digérer la totalité de la cerise de café, on peut ainsi récupérer tout cela dans les déjections des coatis. Ensuite, par un processus soigneux, le café est lavé et séché dans des plateaux en acier inoxydable dans un déshydratateur solaire. Puis, est ensuite broyé pour enlever la deuxième couche. Après que ces processus soient terminés, le café est alors prêt pour la torréfaction et le broyage.
Mais il se passe quoi finalement dans le système digestif du coati ?
Lorsque les grains de café sont dans le système digestif du coati, l'acide gastrique protéolytique filtre et divise le noyau du grain.
Ouais.
Puis le café entre en contact avec les peptides et les acides aminés, ce qui réduit le goût du café amer. Et comme le coati se nourrit non seulement de café, mais aussi de divers fruits et légumes, ses parfums imprègnent le cœur du grain, ce qui en fait le café parfumé. Enfin bon, il faut que j'arrête, on aurait presque envie d'en boire. Et 1 400 $ le kilo, non merci quoi. Car le Brésil fait du café à des tarifs très abordables aussi. La production de café au Brésil représente environ un tiers de la production mondiale de café. Hein, et ce qui fait du Brésil le plus grand producteur du monde. On sait d'ailleurs que les plantations de café couvrent environ 27 000 km² de terrain, soit la superficie de la Belgique.
Ah oui, ça nous donne de quoi faire du café.
C'est ça.
Alors, que sait-on des rapports entre la loutre à longue queue et la grande loutre géante du Brésil ?
Déjà, la loutre géante, elle vole souvent la vedette à la loutre à longue queue. Quand on dit loutre et Brésil, on pense tout de suite à elle. La loutre géante du Brésil, Pteronura brasiliensis, est le plus grand représentant de l'ordre des Mustélidés. Et l'unique représentant du genre Pteronura. C'est un mammifère carnivore d'Amérique du Sud. La loutre géante peut se rencontrer dans toute la partie centrale et septentrionale d'Amérique du Sud. Elle est particulièrement bien présente le long de l'Amazone et dans le Pantanal. On peut très facilement différencier la loutre géante des autres loutres d'après ses caractéristiques morphologiques et comportementales. Déjà, niveau morphologie, c'est le plus long de tous les mustélidés. Les mâles, comme les femelles, mesurent entre 1,50 m et 1,70 m. Elle est déjà plus grande que moi. Elle a une queue puissante qui peut atteindre 70 cm de long.
Oui, en fait, c'est vraiment la loutre géante du Brésil. Ça a vraiment une morphologie très particulière.
La loutre géante a la fourrure la plus rase de toutes les espèces de loutres. Elle est généralement de couleur brun chocolat, mais peut aussi prendre des teintes roussâtres et fauves, et apparaît quasiment noire quand elle est mouillée. Cette fourrure est extrêmement dense. à tel point qu'elle est imperméable à l'eau. Les poils de jarre piègent l'eau et gardent au sec la fourrure, constituée de poils de bourre plus courts. La qualité de sa fourrure en fait d'ailleurs un animal recherché par les marchands de fourrure et a contribué à son déclin. Les animaux présentent des marques blanches ou crème propres à chaque individu sur la gorge et sous le menton, ce qui permet de les identifier dès la naissance. Les loutres géantes utilisent ces marques pour se reconnaître et dès que deux animaux se rencontrent, chacun présente à l'autre sa gorge et le haut de sa poitrine. Le museau des loutres géantes est court et incliné. Les oreilles sont petites et arrondies. Le nez est complètement couvert de fourrure. Elle possède des moustaches, ou vibrisses, très sensibles, qui lui permettent de détecter des changements au niveau de la pression de l'eau et des courants, l'aidant à repérer ses proies. Les membres sont courts et trapus et se terminent par des pieds palmés armés de griffes pointues. Bien adaptée pour la vie aquatique, elle peut fermer ses oreilles et ses narines quand elle est sous l'eau. Concernant sa vue, on sait qu'elle voit à longue distance et mieux que les autres loutres.
Oui, la loutre géante, c'est aussi un animal qui vit en petits groupes sociaux et qui se retrouve finalement assez haut dans les écosystèmes.
Elle est carnivore. Donc elle mange du poisson d'eau peu profonde, surtout des persiformes et caraciformes, comme le piranha. Et en cas de pénurie, elle peut chasser des serpents et même des petits caïmans et anacondas. Concernant son comportement, elle est diurne. Sinon, c'est un animal très social qui vit au sein de larges groupes familiaux. La taille de ces groupes varie beaucoup, ça peut être entre 2 et 20 membres, mais il compte généralement entre 3 et 8 individus. Les animaux d'un même groupe sont très solidaires entre eux. Les loutres dorment, jouent, voyagent et se nourrissent ensemble. Le groupe est structuré autour du couple adulte.
Oui, c'est une famille en fait.
Oui, c'est ça. Et chaque membre a un rôle. L'espèce est territoriale, marquant son territoire par son urine, des sécrétions glandulaires et ses cris. Une des raisons évoquées pour expliquer le développement de groupes sociaux organisés dans cette espèce est la présence de proies localement abondantes, mais sur des sites dispersés.
Alors on sait aussi que ce sont des animaux qui communiquent beaucoup par des cris. Comme on aime bien parler de cris aujourd'hui, on va peut-être en parler un peu.
Alors la loutre géante est un animal particulièrement bruyant qui dispose d'un registre complexe de cris et d'appels. Toutes les loutres communiquent par la voix, mais les cris de la loutre géante sont les plus variés, que ce soit en fréquence et en volume. Nicole Duplex a identifié 9 cris distincts, et certains peuvent être encore subdivisés suivant le contexte. C'était ça.
C'était ça.
D'accord. Donc je vais les détailler. Hein. Il peut y avoir un aboiement bref ou un grognement indique l'intérêt immédiat et un danger. Un cri tremblant peut être utilisé quand la loutre chasse un intrus. Un grognement sourd est émis pour prévenir un intrus de la volonté de le chasser. Les bourdonnements et roucoulements permettent de rassurer les congénères au sein d'un groupe. La loutre siffle vraisemblablement pour prévenir de ses intentions non hostiles à l'approche d'un groupe, mais ça reste encore à déterminer. Les nouveau-nés poussent de petits cris aigus pour attirer l'attention, et les jeunes d'un âge plus avancé gémissent et hurlent lors de leur intégration aux activités de groupe.
Alors on sait que chez la plupart des espèces, les vocalisations sont d'autant plus diversifiées qu'on a affaire à des animaux plus sociaux. Alors il y a aussi la loutre néotropicale qui, elle, occupe une place à part dans les rivières. Et on ne la considère pas non plus comme une espèce qui va proliférer dès que les populations de caïmans ou de grands prédateurs comme le puma ou le jaguar se seraient effondrées.
Non, non. Bien que la loutre néotropicale ait des prédateurs, chez toutes les loutres, les populations dépendent davantage de la qualité de l'environnement et de la présence des proies. Il est difficile de faire une estimation de la population des loutres et notamment de la loutre géante, puisque les populations sont très isolées les unes des autres. J'ai quelques chiffres d'ailleurs, hein, des estimations de population basées sur des enquêtes n'existent que pour quelques zones. Dans le Pantanal brésilien, par exemple, on retrouve entre 2000 et 5000 individus. Dans la région de Madre de Dios, au sud-est du Pérou, entre 180 et 400 individus. Donc là, on parle bien pour les loutres géantes. Dans le parc d'État de Cantao, au Brésil, 31 individus.
Des petits chiffres,
voilà,
des
donc
petits
c'est vraiment.
Oui.
Mais voilà, c'est vraiment pour montrer que ce sont des endroits très morcelés les uns des autres. Hein. Mmh. Voilà, c'est ça.
C'est aussi pour ça qu'on considère que les loutres ne peuvent pas avoir d'effet mésoprédateur, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas proliférer suite à la disparition de superprédateurs comme le jaguar ou le puma, par exemple.
En effet. Les loutres apparaissent trop spécialisées dans leur écosystème, bien que leur régime alimentaire reste assez large. En tous les cas, l'extinction d'un grand prédateur ne joue pas de rôle majeur sur les écosystèmes, et les loutres ont une position écologique assez stable sur les rivières. Et là, c'était la Ruda Salska dans La vapeur et le bruit.
Nous revoilà dans Science en Liberté, l'émission qui déménage la biologie sur Radio Libertaire. Sans Dieu, ni maître, ni publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Aujourd'hui, nous parlons avec Marie-Lou Lélias de l'effet mésoprédateur au Brésil. En effet, la théorie du mésoprédateur release prédit que l'affaiblissement des grands prédateurs comme le puma, le jaguar, ça devrait entraîner une prolifération des prédateurs de moyenne taille et conduire à des bouleversements d'écologie et à une chute des autres espèces.
L'effet mésoprédateur considère que seuls les grands carnivores ont un rôle dans le maintien de l'équilibre des systèmes.
Eh oui, Marie-Lou, c'est une théorie un peu simpliste et très controversée, puisque d'après cette hypothèse, qui est naïve, les grands prédateurs maintiendraient la dispersion des prédateurs moyens et réduiraient leur impact sur la faune. Donc, la disparition des grands prédateurs entraînerait de manière quasi automatique un relâchement des prédateurs de moyenne taille et leur prolifération.
On a déjà vu que si les loutres restaient des prédateurs de moyenne taille, leur répartition et leur écologie dans les rivières ne conduisaient pas du tout à cet effet de relâchement. Les populations restent assez dispersées et les espèces sont plutôt menacées. que ce soit la loutre géante ou la loutre à longue queue. Leur spécialisation dans l'écosystème d'eau douce n'entraîne pas cet effet mésoprédateur.
Alors ça c'est vrai pour les loutres, mais voilà. Les coatis, les ratons crabiers sont aussi des prédateurs de moyenne taille, donc des mésoprédateurs, qui seraient impliqués dans cet effet de relâchement qui prédit que l'absence de grands prédateurs pourrait suffire à faire augmenter les populations de ces carnivores moyens au point d'affecter en cascade l'ensemble de la faune. Alors qu'est-ce qu'on sait du régime alimentaire de ces deux espèces ?
L'alimentation de deux procyonidés, le coati à nez brun, Nasua nasua, et le raton crabier, Procyon cancrivorus, a été étudiée à travers l'analyse du contenu stomacal des spécimens tués dans le sud du Brésil. Les données ont été comparées avec des informations diététiques précédemment publiées pour un autre mésoprédateur syntopique, le renard mangeur de crabes, Cerdocyon tous. Le paysage de la zone d'étude comprend des prairies indigènes, des forêts, des plantations d'arbres exotiques. Les aliments étaient représentés par la fréquence d'occurrence.
Alors donc c'est le nombre de fois où un aliment apparaît dans la série.
Et le volume relatif. Le contenu stomacal de 23 coatis a été analysé. Les animaux et les plantes étaient également fréquents, bien que le volume des plantes était plus élevé. Les espèces végétales exotiques ont été consommées plus que les plantes indigènes. Parmi les proies, les invertébrés étaient plus importants que les vertébrés, principalement en raison de la fréquence des coléoptères et des annélides et du volume de larves de diptères nécrophages. Les proies des invertébrés et des vertébrés avaient la même fréquence d'occurrence, bien que les vertébrés aient un volume relatif plus élevé. Cela suggère que le raton crabier et le coati sont des hypocarnivores opportunistes, utilisant des sources anthropiques avec un chevauchement du régime. Les coatis présentent également un chevauchement de leur régime avec les renards. Mais les analyses du contenu de l'estomac ont révélé l'importance de la biomasse de la pulpe du fruit, des animaux à corps mou tels que les larves, et aussi du sol, ce qui pourrait indiquer des habitudes alimentaires telles que le piégeage et la géophagie.
Alors on voit bien que ce régime de ces animaux est finalement très peu carnivore, fondé aussi bien sur les fruits pour le coati que le raton crabier, avec beaucoup d'espèces finalement qui ne sont pas des oiseaux. Mais l'effet mésoprédateur est pourtant considéré comme très important et il pourrait diminuer les populations d'oiseaux. Alors, il y a eu des études aux États-Unis, notamment une étude sur le coyote, qui avait montré que la réduction des coyotes pourrait être liée à l'affaiblissement automatique de la faune, puisque les auteurs pensaient que c'est dans cette hypothèse qu'il faut utiliser cette hypothèse comme la base de la conservation des milieux et de la sauvegarde des oiseaux. Mais cette étude sur l'effet mésoprédateur et l'extinction des oiseaux avait lieu dans un paysage extraordinairement fragmenté.
La fragmentation des paysages et la réduction des habitats favorables sont des facteurs qui forcément aggravent le maintien des populations d'oiseaux.
Ah ben oui, forcément. Et donc dans ces milieux banalisés, on s'attend à ce que ces prédateurs de moyenne taille puissent agir. Il y a une autre étude qui porte sur le raton laveur qui émet aussi l'hypothèse de son rôle dans un effet mésoprédateur.
Les mésoprédateurs, ou prédateurs moyens, sont des contributeurs importants au fonctionnement de l'écosystème et peuvent avoir des impacts significatifs sur un large éventail d'espèces. Le raton laveur du Nord est une espèce semi-aquatique particulièrement abondante et largement répandue aux États-Unis. Le raton laveur a connu un grand succès au cours du siècle dernier, avec des augmentations spectaculaires de son abondance et de sa distribution.
Oui, il est maintenant présent partout en Amérique quasiment.
Oui, probablement en raison de sa capacité à exploiter les ressources anthropiques quand ont été décimés les grands carnivores nord-américains. On a dit que le raton laveur a des impacts importants sur d'autres espèces. Il a été montré que la prédation par les ratons laveurs réprime le succès reproducteur des oiseaux chanteurs et des tortues marines et influence certaines populations de souris à pattes blanches. Les ratons laveurs sont souvent considérés comme des animaux nuisibles et pourraient même constituer une menace pour les oiseaux. Pourtant, ces effets ne sont connus que dans des habitats déjà perturbés et le taux de croissance de la population des ratons laveurs ont rarement ou jamais été évalués.
Oui, en fait, il n'est pas toujours besoin d'invoquer un effet mésoprédateur aussi mécanique dans ces zones qui sont déjà très fragilisées. L'action sur les oiseaux n'est pas très évidente, mais il existe d'autres études, notamment au Brésil, donc à deux pas de ta zone de stage, sur une petite île couverte de cette forêt atlantique tout à fait extraordinaire que l'on décrit en stade d'équilibre climax.
Oui, il s'agit d'une étude de Mauro Galletti et collaborateurs sur l'île d'Anchieta, sur la côte est du Brésil. L'île d'environ 830 hectares est un écosystème fragile de la forêt atlantique, connaît le taux le plus élevé d'espèces endémiques rares, avec 682 espèces d'oiseaux, dont 144 espèces en danger d'extinction. En 1983, le zoo de Sao Paulo a introduit une quinzaine d'espèces de mammifères, des agoutis, des marmousets et surtout des coatis.
Alors ça, c'est le problème grave, hein, Marie-Lou, puisque comme l'île est un milieu fermé, ça constitue évidemment à la fois une bonne opportunité pour étudier ce qui est arrivé suite à l'introduction de ces coatis, dont on peut soupçonner un effet mésoprédateur sur les oiseaux, puisque là, on a affaire à un milieu complètement fermé, et donc évidemment, ces animaux vont bien se nourrir sur la masse diverse qu'ils vont trouver. Mais en fait, il semble que les opossums et les agoutis soient les premiers prédateurs des oiseaux forestiers et que les coatis interviennent beaucoup plus modérément, d'après l'étude. Toutefois, les oiseaux les plus exposés sont d'abord ceux qui vont nicher dans les milieux ouverts ou même à terre, bien que l'affaiblissement des populations paraît se faire d'une manière parfaitement aléatoire, ce qui démontre que les prédateurs sont très opportunistes. De plus, la chute des populations d'oiseaux sur Anchieta ne semble pas très différente de ce qui se passe sur d'autres îles où là, il n'y a pas de coatis.
Oui. À Anchieta, les guildes d'oiseaux paraissent quand même bien impactées par la présence de ces espèces de mésoprédateurs. L'opossum à grandes oreilles et le coati roux. Mais il s'agit d'animaux introduits, et on sait que les carnivores introduits posent souvent des problèmes à la faune locale.
Oui, parce que comme ils ne sont pas adaptés avec ces espèces-là, en général, ils vont consommer les espèces les plus fragiles qu'on peut trouver sur ces îles. En outre, toutes les îles de la côte atlantique ont subi une intense pression humaine, avec une grande perte de végétaux, beaucoup de modifications anthropiques. Alors, il s'agit aussi de belles plages qui sont importantes pour le tourisme. Néanmoins, les auteurs concluent qu'il faudrait retirer les mésoprédateurs, les opossums et les coatis principalement, pour réussir à restaurer les populations d'oiseaux de la forêt atlantique.
C'est clair que l'introduction d'espèces de carnivores moyens sur une île peut avoir un impact très important. On se souvient du chat introduit sur l'île Stephen et qui a détruit les populations du troglodyte local qui nichait au sol. Souvent, l'écologie des espèces invasives montre une forte dynamique qui exerce une forte pression sur les animaux pas adaptés à leur présence, comme ici les oiseaux qui nichaient au sol.
Oui, c'est l'effet principal qui est possible sur ces animaux. Mais là, on a affaire à des espèces qui vont avoir une dynamique importante, qui sont introduites dans des milieux fermés. La vraie question, c'est est-ce qu'il s'agit d'un effet mésoprédateur ? Alors, il y a quand même une anomalie dans ce type d'étude, car normalement, l'effet mésoprédateur implique que des grands prédateurs aient d'abord été persécutés et aient disparu du milieu. Or, rien nous dit qu'il y avait des grands prédateurs sur l'île d'Anchieta avant l'arrivée de ces mésoprédateurs introduits par le zoo. Cette extinction des grands prédateurs qui devraient conduire en cascade à cet effet de relâchement des mésoprédateurs et accroître ensuite la pression de ces prédateurs de moyenne taille sur la faune. C'est pour cela que ça paraît une théorie séduisante, car on considère que l'effondrement des grands prédateurs est en général associé à une augmentation considérable des prédateurs de taille moyenne. Et donc évidemment, il faudrait que la pression exercée par ces mésoprédateurs dépasse largement la prédation qui serait exercée par des grands prédateurs qui seraient devenus absents, au point de mettre en danger les populations de proies et déséquilibrer tout l'écosystème, toutes les populations d'oiseaux.
L'effet mésoprédateur implique en quelque sorte qu'un carnivore de taille moyenne pourrait exister en de fortes densités et exterminer ses propres proies, ce qui expliquerait la régression des populations d'oiseaux vulnérables.
C'est un peu ça, c'est-à-dire que la grande idée, c'est que les grands prédateurs étant absents, les moyens prédateurs peuvent proliférer. Et c'est ce qui expliquerait que si on détruisait ces mésoprédateurs, on pourrait rétablir les populations d'oiseaux. Or, c'est une théorie très grave, parce que du coup, après avoir tué les grands prédateurs, on va se mettre à tuer les petits.
Ah oui.
Pourtant, on sait qu'un prédateur ne peut capturer que certains individus dans une population de proies. En général, il attaque les individus les plus faibles, les moins attentifs. En plus, là, on a affaire à des mésoprédateurs qui sont quand même très peu carnivores, qui consomment beaucoup de fruits. Et rien ne dit que la proportion des individus les moins attentifs et les plus faibles en proie serait soudain plus importante parce que les grands carnivores auraient disparu. Alors on l'a vu, les loutres n'augmentent pas leur pression sur les poissons quand il n'y a pas de loup ou de jaguar. En effet, ce sont des mésoprédateurs très différents, très spécialisés. Et là, on va s'attaquer à des mésoprédateurs moins spécialisés, plus généralistes, comme le coati ou le raton crabier. Mais ça ne paraît pas nécessairement occasionner ces éléments-là. En fait, les effets mésoprédateurs identifiés en Amérique du Nord ont toujours été identifiés dans des milieux modifiés, dans des habitats morcelés. Qu'en est-il donc en Amérique du Sud ?
Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, sou assim. Meu mundo é hoje. Não existe amanhã pra mim. E sou assim. Assim morrerei um dia. Hipocrisia. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje. Não existe amanhã pra mim. E sou assim. Assim morrerei um dia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmos com dinheiro ou posição. Eu nunca tomei parte desse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim. Quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim. Quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim. Quem quiser gostar de mim.
Vous écoutiez Putumayo Presents, Meu Mundo et Oje.
De retour sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, dans Science en Liberté, une émission scientifique où nous décortiquons aujourd'hui un effet écologique bien mystérieux et très controversé, l'effet mésoprédateur. Alors, la théorie mésoprédateur-release annonce que les grands prédateurs contrôleraient en fait la densité des mésoprédateurs, c'est-à-dire des prédateurs de moyenne taille. Mais la plupart des études sur l'effet mésoprédateur échouent à démontrer un lien causal entre le déclin des grands prédateurs et l'accroissement des prédateurs de taille moyenne. Par exemple, on a une étude de Gert et Clark en 2003 qui, après avoir étudié le lien entre la mortalité importante des coyotes et des mésoprédateurs, conclut que les coyotes, finalement, n'interviennent pas sur la limitation des ratons laveurs aux États-Unis. La sélection d'habitat serait beaucoup plus responsable de la même dynamique de ces fameux ratons laveurs. De la même manière, en Espagne, Francisco Palomares a étudié la relation entre le lynx ibérique et les mangoustes, mésoprédateurs et grands prédateurs, donc, et là aussi, il n'a trouvé aucun lien entre la régression continue du lynx ibérique et l'augmentation des mangoustes, démontrant que le lynx n'avait en effet aucun effet sur les mangoustes elles-mêmes.
Tout à fait, Thierry. Ces études sont menées dans des grandes plaines ou dans des habitats altérés. C'est pourquoi des recherches qui se déroulent dans des forêts du Brésil peuvent apporter une autre façon d'envisager l'effet mésoprédateur.
En effet, Marilou, la théorie de l'effet mésoprédateur annonce clairement que c'est la perte ou la diminution des grands prédateurs, comme le lynx, mais aussi le puma ou le jaguar, qui permettrait une augmentation des prédateurs de moyenne taille, comme le raton crabier, le coati, etc. Et par un effet en cascade, ces mésoprédateurs vont menacer les autres animaux des communautés animales aviennes, etc.
Oui Thierry, l'effet mésoprédateur est considéré comme une altération des écosystèmes par le simple effet mécanique d'une augmentation des prédateurs de taille moyenne suite à la disparition des grands prédateurs.
Alors ces grands prédateurs au Brésil, c'est quand même principalement le jaguar, Panthera onca, et le puma concolore. Ce sont des grands carnivores qu'on connaît bien, des grands félidés. Ce sont des animaux assez rares, très menacés dans les grandes forêts atlantiques, et ils ne semblent pas influencer d'une manière très forte la la présence des prédateurs de moyenne taille. On sait que les grands carnivores peuvent avoir un effet dispersant sur les carnivores plus petits, parce qu'ils se sentent menacés et ils vont éviter de les croiser. Mais cet effet est quand même très peu susceptible d'avoir un impact fort sur l'abondance des autres espèces.
Toutefois, la forêt atlantique est un habitat assez dense pour favoriser la cohabitation entre les grands carnivores et les mésoprédateurs.
Oui, d'autant que le régime alimentaire, on l'a vu tout à l'heure, des coatis, de la martre à tête grise, des ratons crabiers, reste très peu carnivore. On peut vraiment les qualifier d'hypocarnivores car ils ont un régime très opportuniste avec beaucoup de fruits et beaucoup d'insectes.
Oui, par exemple, la martre à tête grise que nous avions en captivité au centre était nourrie de croquettes, mais surtout de mélanges de fruits. Le raton crabier, lui, consommait 500 grammes de fruits d'hiver et 500 grammes de poissons, ce qui correspond à un régime moyennement carnivore. Ce sont des animaux très opportunistes dans la nature et ils s'alimentent beaucoup sur les végétaux.
Alors voilà pourquoi leur effet mésoprédateur est probablement très surestimé. Et c'est d'ailleurs encore une étude au Brésil qui va nous apporter de la matière sur cet effet mésoprédateur. Car si les coatis, les ratons crabiers et les opossums sont abondants, leur effet sur la faune autochtone ne paraît jamais très très intense. Sans doute parce qu'ils sont peu carnivores dans leur alimentation. Alors, il faut aussi reconnaître que l'application de cet effet mésoprédateur est un peu bizarre. Car après avoir détruit des grands carnivores, ou du moins assisté à leur régression, à leur recul, on va décréter que les prédateurs de moyenne taille deviennent une gêne. Et que donc il faudrait aussi les réguler, voire les éradiquer du milieu pour pouvoir sauvegarder la faune.
Oui Thierry, l'étude de Cove et collaborateurs en 2014 a découvert quelques limites à l'effet mésoprédateur. Tout d'abord, les auteurs montrent que l'abondance des ratons crabiers, des coatis roux et de la martre à tête grise semble assez forte dans les zones étudiées. Il apparaît que leur abondance soit plus influencée par les ressources agricoles et notamment par la production des ananas. Rien ne permet de confirmer que la rareté des jaguars et des pumas ait une quelconque influence.
Donc là, on est en train de montrer que l'effet mésoprédateur ne fonctionne pas, en tout cas d'après cette étude de Cove en 2014. En outre, il y a la fragmentation des habitats, la destruction des milieux, et ça, ça a une influence considérable sur l'évolution de la vie faune. Les oiseaux paraissent bien plus fragilisés et vulnérables par les modifications de la nature que par la présence des mésoprédateurs, et bien entendu, ils sont très vulnérables aussi aux pressions exercées par les activités humaines.
De plus, l'étude démontre aussi que la rareté des grands carnivores ne permet pas vraiment de mesurer leur effet sur l'abondance des prédateurs moyens.
Alors voilà pourquoi, avant d'appliquer une théorie comme celle des mésoprédateurs relais, il faudrait séparer tous les facteurs qui sont susceptibles d'agir sur l'abondance de la vie faune. Et c'est pas très facile, évidemment, d'évaluer tout cela. On voit que les animaux les plus spécialisés dans leur alimentation, comme les loutres par exemple, vont avoir très peu d'effet. Alors on accuse plus volontiers des mésoprédateurs plus opportunistes, comme le coati ou le raton crabier. Mais lorsqu'on constate que leur abondance est davantage liée à la qualité des ressources, et notamment des fruits, on peut quand même conclure que l'effet mésoprédateur doit forcément, au minimum, rester très faible. Ce sont bien des espèces très généralistes, qui sont capables de s'adapter facilement à ces écosystèmes perturbés, fragmentés, déjà altérés par la pression humaine, et c'est principalement cette capacité d'adaptation qui va expliquer leur abondance relative.
D'ailleurs, l'activité de ces animaux se concentre souvent dans les zones agricoles, où ils peuvent accéder à des ressources comme les fruits, notamment l'ananas et la canne à sucre. Une autre étude prend l'oslo comme modèle de mésoprédateur. L'oslo, Leopardus pardalis ou Jaguatirica,
petit jaguar,
est un petit félidé d'une dizaine de kilos. C'est un gros petit chat à rayures qui vit sur le sol, même s'il grimpe facilement aux arbres. Ses proies favorites sont les petits rongeurs terrestres, mais il sait attraper les oiseaux et les reptiles.
Alors en voilà un autre mésoprédateur qui est vraiment susceptible d'être un des candidats capables de montrer cet effet mésoprédateur. Mais précisément, cette étude qui a été menée dans les forêts atlantiques du Brésil montre d'abord combien la déforestation et le morcellement des habitats est néfaste à la présence des grands carnivores. Car lors de leurs études, les auteurs ne trouvent la présence du jaguar et du puma que dans une seule réserve sur les 6 réserves étudiées. La fragmentation et morcellement de la forêt entraînent que 50% des massifs forestiers sont inférieurs à 50 hectares. Ce sont des surfaces beaucoup trop petites pour le maintien de grands prédateurs comme le jaguar ou le puma.
Oui, et à partir d'une étude basée sur des pièges photographiques, les auteurs arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas d'effet mésoprédateur. Bien au contraire, leur analyse indique que la présence des grands carnivores est en corrélation avec l'abondance des oslos dans la forêt atlantique.
C'est-à-dire que les oslos, finalement, augmentent en présence des grands prédateurs.
Exactement. Que ce soit le jaguar ou le puma, la présence des grands prédateurs favorise la présence des ocelots, et plus particulièrement encore durant la saison sèche. Les ocelots bénéficient bien davantage de la présence des jaguars, et chacun occupe une niche particulière, et que leur écologie existe à une échelle bien plus fine que ce que la théorie annonçait.
Alors que la disparition des pumas et des jaguars aurait dû favoriser les ocelots, on s'aperçoit que c'est l'inverse. L'oslo est favorisé quand il y a présence de jaguars, et donc les écologies ici sont effectivement bien différentes de ce que pouvait prétendre cette théorie. Et puis, en effet, aussi pour protéger la forêt, la restauration de boisements, de corridors boisés, seraient des alternatives plutôt bienvenues, plutôt que de persécuter les méso-prédateurs. Tout semble montrer que les densités d'oslo vont dépendre de la qualité de la forêt brésilienne, même s'ils peuvent exploiter les champs de canne à sucre et les forêts d'eucalyptus.
C'est clair que les petits fragments forestiers constituent des lieux d'accueil déjà appauvris et bien plus fragiles que les grands massifs de la forêt atlantique. La conservation d'espaces moins affectés par l'activité humaine et le rétablissement des liaisons entre les différents massifs est une nécessité pour maintenir les populations animales dans une écologie diversifiée.
Ces questions sont donc aussi des questions de dynamique des populations en écologie, et pour l'instant, elles sont très très loin de faire l'unanimité dans les travaux de recherche que nous avons pu parcourir.
Les Bérus, les Berruriers noirs, scarabées.
Voilà, nous quittons le Brésil, ses coatis, ses ocelots et ses loutres. Des carnivores de moyenne taille, les fameux méso-prédateurs donc, mais si peu perturbants et si bien intégrés dans la forêt primaire, y compris la grande forêt atlantique. Au terme de cette émission, il est flagrant que la théorie de l'effet méso-prédateur reste basée sur une vision très simplifiée du fonctionnement écologique. Certes, les prédateurs de moyenne taille, les plus opportunistes, peuvent éventuellement poser des problèmes dans des milieux fragilisés ou des milieux banalisés. Mais non, les grands carnivores ne régulent pas les méso-prédateurs, leur effet dispersant est trop faible et ça crée des équilibres relativement trop instables. Alors, les îles les plus fragiles et déjà affectées par les pressions anthropiques, on peut constater sur ces îles des déséquilibres qui vont peser sur l'ensemble de la faune. Seules les espèces les plus généralistes peuvent s'en sortir au détriment des plus spécialisées. Ainsi s'étend la diminution des oiseaux endémiques et des loutres à longue queue en même temps, alors que la spécialisation alimentaire soit toute relative. Si ces ressources viennent à manquer, si l'habitat est détruit, il ne reste guère de place pour le maintien de la faune. Le coati n'est pas dangereux, le raton crabier non plus, tant qu'ils ne sont pas introduits dans des écosystèmes fragiles et perturbés, et il n'est pas nécessaire de traiter tous les ratons laveurs en nuisibles. En accusant les prédateurs de moyenne taille, on prolonge la persécution des grands prédateurs par celle des mésoprédateurs. Et ça n'assure pas une meilleure protection. Alors qu'il faudrait évidemment rétablir, restaurer les liaisons, rétablir la forêt brésilienne, et sans doute à toutes les autres forêts, ce qu'il faut, c'est du temps pour se reconstituer. Et pour cela, il faut échapper aux marchands, aux destructeurs et aux profiteurs. Car la biodiversité n'est pas une ressource, ce n'est pas une marchandise. Cette faune et cette flore nous accompagnent sur cette terre dans une écologie fantastique. Et
ainsi se finit cette émission de Science en Liberté animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction est d'Hicham Chahidi.
Et pour finir, nous allons écouter Raymond Delé-Blanbec avec son titre « Riposte ».
De nos vies, ils font le sacrifice pour leur bénéfice. De nos vies, ils font le sacrifice.